Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, dans ce tourne-page d'aujourd'hui, réalisé par Simon Martin, dirigé par Pierre-Alain Bénard, nous allons parler du manuel anti-sondage « La démocratie n'est pas à vendre » d'Alain Garrigou et de Richard Brousse, publié aux éditions « La ville brûle ». Alain Garrigou est professeur de sciences politiques à l'Université de Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Il est, entre autres, fondateur de l'Observatoire des sondages. Vous pouvez aller faire un tour sur le site www.observatoire-sondages.org. Et puis Richard Brousse, qui a coécrit cet ouvrage, est sociologue et webmestre de l'Observatoire des sondages. Alors le sondage, eh bien, il y a une définition depuis 2016 en fait, une définition légale. Le sondage est une statistique basée sur un échantillon représentatif. Pourquoi, me direz-vous, un manuel anti-sondage ? Ben, c'est vrai que c'est un peu d'actualité. Il ne se passe pas un jour, je dirais même une heure, si vous êtes devant la télévision et si vous écoutez la radio, sans que l'on vous parle d'un sondage, notamment un sondage d'opinion. Les auteurs précisent qu'il est devenu nécessaire de se déprendre de l'emprise croissante de ce type d'information chiffrée, le sondage, qui souvent ne vaut pas grand-chose, mais participe pourtant à la mise en condition des citoyens et donc à la perversion de la démocratie. Fabriquer, transformer en données chiffrées, marchandiser puis manipuler, l'opinion publique est à présent une source de profit sur un marché en pleine expansion. Les sondages sont plus qu'une simple technique. L'intention originelle des fondateurs, c'était de créer un outil fiable d'interprétation de l'opinion publique après avoir critiqué les vieux modes d'expression archaïques et infidèles, les conversations de salon, les articles de presse, les discours politiques. Les sondages étaient la solution permettant de restituer la parole au peuple dans une sorte de consultation quasi permanente et pacifiée. Mais aujourd'hui, chers auditeurs de Radio Grand Ciel, les sondages jouent un rôle crucial dans les élections. Il me vient à l'esprit cette anecdote extraite d'un livre de Philippe de Villiers. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu dans son chapitre « Comment on fait monter les sondages ». Il s'agissait de la campagne des élections européennes de 1993 avec une liste Philippe de Villiers et Jimmy Goldsmith. Ils avaient engagé un Tour de France avec des salles pleines, ça marchait très fort, le bouche à oreille, des audiences en province, mais rien dans la presse nationale. Nous ne sommes pas dans le panel, la machine tourne à vide, nous ne passons pas à la télé, nous ne décollons pas, 2%, une misère. La solution, eh bien, il faut gaver les sondeurs. Jimmy Goldsmith, qui avait pas mal de disponibilité, a commandé alors une batterie de sondages aux trois principaux instituts. Très vite, frémissement, les instituts ont révisé leurs chiffres. Plus ça coûte, plus on paie, plus ça monte. On passe de 2 à 7%, puis 10%. Et au soir de l'élection, notre liste fait la percée à hauteur de 12%, dit Philippe de Villiers. Et il conclut « Je sais maintenant comment marche le système. Pour être choisi, il ne faut pas seulement dire des choses justes, il faut avoir les moyens d'une bonne exposition médiatique. Il faut être dans l'offre, comme disent les sondeurs. Et pour faire de la politique nationale, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. » D'où la nécessité d'une critique des sondages, une critique citoyenne et scientifique. L'histoire des sondages, elle n'est pas si ancienne que ça. Évidemment, ça a commencé aux États-Unis en 1936. On a parlé d'une naissance héroïque avec George Gallup, qui a défié un magazine spécialisé dans les votes de paille. Les votes de paille, ce sont des sondages qui sont faits par un journal donné. Vous avez ça parfois dans vos journaux, dans vos magazines. Le vote de paille, c'est avec un échantillon qui est représenté par les lecteurs. Alors, il s'agissait de prédire la présidentielle américaine et à l'époque, Gallup, en tant que sondeur, il y avait Lyndon d'un côté et Roosevelt de l'autre, avait mis Roosevelt en tête et le magazine en question avait mis Lyndon en tête. Et c'est le sondeur qui a gagné. En France, le phénomène est arrivé beaucoup plus tard. Néanmoins, un certain Jean Stossel a fondé l'IFOP en 1938 et c'est à la présidentielle de 1965 que le rôle des instituts de sondage s'est révélé avec une mise en ballotage qui était pressentie par les sondeurs à la grande surprise générale. Vous vous souvenez sans doute que le général de Gaulle avait été mis en ballotage au premier tour de la présidentielle avec Le Canuet et Mitterrand à l'époque. Depuis lors, les sondages sur les intentions de vote sont les plus connus de toutes les variétés de sondages, car chaque élection, c'est une compétition entre les candidats, mais aussi entre les sondeurs. Il y a donc des liens fondateurs entre sondage et science, entre sondage et démocratie, mais aussi avec d'autres sources comme la police, puisque les pouvoirs publics ont le souci de connaître les pensées des populations, et puis le commerce, parce que les instituts qui sont assimilés à des structures académiques, or ce sont des entreprises de sondage qui ont vocation marchande, et bien ils travaillent beaucoup avec les grosses entreprises. On a, dans les débuts des années 90, vu naître une nouvelle profession, celle de politologue, qui est censé transformer les marchands de sondages en scientifiques. Le nombre de sondages a explosé, difficile d'en connaître le chiffre, sachant que 80% ne sont pas publiés. Alors je vous ai dit, les pouvoirs publics sont concernés, les entreprises économiques, mais aussi les journalistes avec des relations de connivence avec les sondeurs, et puis les hommes politiques, bien sûr. Une loi du 29 juillet 1977 a réglementé les sondages électoraux avec l'interdiction de publier les sondages une semaine avant un scrutin. Cette durée a été réduite à 48 heures en 2002, tout simplement parce que en fait, les pays qui nous sont voisins publiaient toujours les sondages, ils n'étaient pas soumis à la réglementation. Et donc la législation, le blocage sur une semaine était inopérant. Et puis on a créé aussi une commission du contrôle des sondages avec une loi d'avril 2016 sur la modernisation des différentes règles applicables aux élections. Alors en fait, la construction de l'opinion correspond à la construction d'un sondage. L'opinion publique n'est pas une ressource naturelle que l'on pourrait extraire des individus à l'image des matières premières. À la seule condition de disposer des moyens pour les interroger, l'opinion publique, c'est un produit. Les sondages ne sont pas une cueillette d'informations. Il a fallu poser une question pour savoir. Cette information n'existe pas si on ne la suscite pas. Ni les questions, ni la procédure de questionnement ne sont neutres. Comprendre comment les sondages fabriquent l'opinion publique suppose d'étudier comment les sondages sont eux-mêmes fabriqués. Il y a d'abord une fabrication avec des sondeurs et des commanditaires, c'est une relation commerciale. Et puis ensuite, il y a une passation entre sondeur et sondé, c'est-à-dire qu'il y a un sondage qui se faisait beaucoup par téléphone, c'est une relation inopinée, fugace, anonyme, mais parfois empoisonnante, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de non-réponses, il y a beaucoup de gens qui raccrochent, moi le premier. Les enquêteurs sont des travailleurs précaires et qui sont payés à l'enquête et c'est très difficile pour eux, c'est un maillon de la chaîne. Et puis, après donc l'élaboration, la fabrication du questionnaire après la passation, il y a l'interprétation des résultats, et qui, elle, est réservée aux sondeurs, lesquels redressent les chiffres recueillis à l'issue des enquêtes, c'est-à-dire les chiffres bruts, qui ne sont jamais exploités en l'état, mais ils sont redressés avant d'être publiés. Et là, ça fait partie des secrets de fabrication de l'expérience de sondeur. Et donc, c'est un domaine assez secret sur lequel, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, à la suite de cette évolution, on a pu constater une dégradation de la qualité des sondages. Quelqu'un qui dirigeait un institut de sondage, l'IFOP, Laurence Parisot, disait en 2007, par définition, les sondages ne se trompent jamais car ils n'ont pas vocation à prédire. Il y a un usage stratégique et des effets politiques. Aujourd'hui, la question se pose de savoir qui parle au nom du peuple. Est-ce que ce sont les élus qui sont menacés, qui se sentent menacés dans leur légitimité et dépossédés dans leur monopole de porte-parole? Il y a des stratégies de mobilisation à travers les sondages avec la dramatisation. Et il faut savoir que les sondages n'ont pas d'effet par eux-mêmes, mais par leur publication et leur usage stratégique. Il y a aussi, et c'est plus grave, une marchandisation de l'opinion. L'opinion publique est devenue une médecine rare, c'est une question qu'on peut se poser. Les sondages par téléphone, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont souvent peu couronnés de succès. Ils sont remplacés par des sondages en ligne qui sont moins chers. Tout se paie, tout s'achète, même la démocratie, autre question. Un sondage en ligne coûte moins cher, mais les internautes qui donnaient leur opinion, c'est-à-dire c'était gratuit, aujourd'hui ont tendance à faire payer. Eh oui. Et donc, il y a une gratification, il y a des tombolas, enfin, tous les moyens sont bons pour essayer de soutirer ces fameuses opinions. Et puis, il y a aussi le fait, cette dérive aussi, que les sondages banaliseraient l'élection. L'élection serait une consultation noyée dans les sondages. Ils pervertissent le choix des électeurs par la publication des intentions de vote. Il menacerait même les élections qui deviendraient inutiles. L'abstention a tendance à devenir majoritaire. Les auteurs parlent même de parler d'une indemnité électorale. Alors que faire des sondages? Réguler ou laisser faire? Il faut une veille, il faut une alerte. Une dernière loi du 25 avril 2016, c'est bien ça, a ajouté des mentions obligatoires à la fiche technique des sondages. Avec le nom du payeur, le texte intégral des questions, la marge d'erreur. Elle a renforcé les pouvoirs d'une commission des sondages. Vous pouvez aller sur le site internet de Commission Trait d'Union des Trait d'Union Sondages, donc pour essayer de réguler un petit peu ce domaine sensible. Peut-être est-il vain, disent les auteurs, d'espérer que l'exigence intellectuelle et démocratique l'emporte, alors que d'autres intérêts plus puissants et mieux défendus sont en jeu. Mais si, comme on l'espère et comme on peut le supposer, la nouvelle économie de la fabrique de l'opinion est un jour régulée par un code et même par une autorité indépendante, il faudra toujours faire la critique des sondages. C'est une affaire de citoyens. Je laisse à votre réflexion un passage, une anecdote des auteurs sur les anciens et les modernes. Alors qu'ils visitaient la vieille Europe au XIXe siècle, le poète allemand Heinrich Heine et un ami s'étaient arrêtés devant la cathédrale d'Amiens. « Dis-moi, Heinrich, pourquoi les gens ne sont-ils plus capables de construire des monuments comme cela ?» Heinrich répondit « Dans ce temps-là, les gens avaient des convictions. Nous, les modernes, nous avons des opinions. Il faut plus que des opinions pour construire une cathédrale. » Merci, Simon Martin, d'avoir réalisé ce tourne-page. Merci à vous, chers auditeurs. À bientôt sur Radio Grand Ciel, bien sûr.